Bien, bonjour, bienvenue. Dessine-moi une Argentine. C'est évidemment un peu difficile de parler de l'aspect, je dirais, iconographique de l'Argentine sans voir précisément les images qu'elle a suscitées. On va tout de même essayer de ne pas être trop abstrait avec Carlos Sampaio, José Muñoz et Daniel Manzinski. Je vais peut-être tout de suite parler de ce livre de Daniel Manzinski, El País de las Palabras, qui est un recueil de portraits d'écrivains latino-américains vivant en Europe, pour la plupart, qui est une série de portraits tout à fait remarquables. Et pour situer un petit peu le travail de Daniel Manzinski, je voudrais évoquer le texte d'un catalogue. Vous venez de faire, il y a très peu de temps, une exposition à Moscou. Cette exposition a fait l'objet d'un catalogue, et le catalogue contient des textes d'un certain nombre d'auteurs. Il y a José Manuel Farrardo, Sepúlveda, Sebastián Gamboa, qui disent de votre travail un certain nombre de choses tout à fait élogieuses, pour le moins, et qui parle précisément de...
Il faut toujours demander des préfaces à des amis.
Oui, alors je ne sais pas si c'était des amis. J'ai l'impression que tous les gens... Alors justement, tous les gens que vous avez photographiés, tous les écrivains que vous avez photographiés sont devenus ou sont restés des amis. Ce qui est quand même déjà un signe, parce qu'on sait bien qu'il y a un certain nombre de gens qui... n'aiment pas forcément la photographie, n'aiment pas forcément être photographiés, et vous arrivez à les convaincre, les uns et les autres, de se prêter à, de se soumettre à votre objectif, sans qu'ils en aient rien à redire, au contraire. Et je ne sais plus lequel des trois, parce que je mélange peut-être dans les éloges que font les trois auteurs, je crois que c'est Sepúlveda, mais j'en suis plus sûr, peut-être c'est Gamboa, qui dit que vous avez dans votre travail trois ingrédients. La lumière, l'ombre, pour un photographe, jusque-là, on est d'accord, et le respect, ce qui est un bel éloge tout de même pour un photographe. Alors, quel commentaire, Daniel Manzinski ? Je sais que c'est peut-être pas très facile, mais comment procédez-vous ? J'ai l'impression que tous les auteurs que vous avez photographiés, à qui vous avez demandé quelquefois des choses assez extraordinaires, parce que on voit par exemple, je ne sais plus, je crois que c'est Javier Cercas qu'on voit dans une espèce de piscine immergée jusqu'à la ceinture. On voit des gens dans des positions absolument invraisemblables. Un auteur dont le visage apparaît à travers le trou pratiqué dans un journal. Quelquefois, vous les soumettez quand même des exigences qu'ils auraient pu mal prendre. Or, tout le monde est absolument ravi et unanime sur cette notion de respect, ce qui est le contraire de ce qu'on pourrait appeler les paparazzi, en quelque sorte. Ce n'est pas du tout l'image volée. Est-ce que vous pouvez parler en quelques mots de cette approche, de ce travail que vous faites avec des écrivains?
Bonsoir. C'est tellement plus simple derrière un appareil. Tout d'abord, je voulais remercier les gens du Centre Pompidou, en général, d'avoir organisé ces colloques, et en particulier de m'avoir invité. Je suis très fier d'être ici et de faire partie de cette famille, surtout des lettres, mais aussi de l'image. Et avant de répondre à ta question, je voulais simplement préciser que je suis de ceux qui a eu la chance de pouvoir choisir mon propre exil. Et j'ai dit ça parce qu'il y a un mot dans la présentation, dans les quelques lignes sur mon travail. Et on sait bien que, par respect à ceux qui n'ont pas pu partir ou ceux qui n'ont pas eu le choix de partir, je voulais quand même les préciser. Et oui, c'est très bizarre. J'ai une sorte de passion, d'obsession par les portraits d'écrivains. Ça fait très très longtemps que je les fais. Et je les collectionne comme des papillons, comme Nabokov chassait des papillons, moi je les collectionne. Et je pense que quelque part, il y a un mois, un écrivain frustré, un écrivain qui n'a pas su trouver ses mots et qui essaye de trouver quelques images. Des fois, c'est vrai que c'est un peu osé ou un peu personnel, mais je l'ai fait toujours avec dignité, avec respect. Et je vais juste te raconter une anecdote. Je vis de la presse et à Paris, et c'est de plus en plus difficile de photographier des écrivains. Peut-être que ce n'est pas la faute des photographes ou des paparazzi, c'est peut-être plutôt la faute des journalistes qui demandent de plus en plus aux écrivains d'avoir un avis de tout. Tu peux très bien écrire, avoir une super prose ou des vers très vastes et infinis, mais ne pas avoir forcément une idée sur des tours qui tombent ou ce qui se passe dans le monde. Et donc, le résultat, c'est que les écrivains se ferment de plus en plus. Ces responsables des presses filtrent de plus en plus. Et donc, quand il y a un photographe qui vient pour un journal et demande de photographier la personne chez lui et pas dans les très beaux jardins des Gallimard ou au 27 rue Jacob, et il y a une méfiance. J'insiste, j'ai la chance de travailler pour un journal qui compte, et donc ils acceptent. Et quand j'arrive chez la personne, je suis un civil, comme aujourd'hui, je n'ai pas d'appareil en vue, et je m'assois dans les salons, je commence à parler de l'actualité, et je glisse quelques mots sur son livre que j'essayais de lire, ou qu'en diagonale, j'ai regardé les soirs. Et quand je vois que la personne commence à s'énerver, parce qu'en fait, il n'y a plus de photos, je m'invite à un café. Je lui dis, je pourrais avoir un café. Évidemment, il n'y a pas de service domestique en France, et donc la personne accepte, va dans la cuisine, met de l'eau à bouillir, et je le suis dans la cuisine. Je pourrais faire une expo des sauteurs dans leur cuisine. Et j'ai fait cette première photo avec un appareil très discret et silencieux dans la cuisine. C'est ça, le respect, je pense, et c'est ça oser. C'est que je casse une ambiance, je me mets dans leur intimité. Et après, évidemment, c'est difficile de me mettre à la porte 5 minutes après.
Oui, mais je ne comprends pas, parce que Daniel Mantinsky, on ne voit pas dans votre travail ces photos que vous évoquez de l'auteur en train de faire son café dans la cuisine. Donc ça veut dire que c'est une première mise en confiance, et après vous procédez à la photo véritable que vous avez envie de prendre.
Oui, comme Susan Sontag disait, pour moi la photographie c'est un passeport. C'est un passeport pour voyager, je voyage beaucoup, mais aussi pour faire des rencontres. C'est à ça que ça sert, ces documents. Et donc, cette première rencontre dans la cuisine, c'est une invitation à d'autres rencontres. Il y a peut-être quelques images dans la cuisine, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a après.
Oui, effectivement. On reparlera de ce travail parce qu'il est très, très vaste et très varié. Mais je voudrais poser une première question à Carlos Sampaio et à José Muñoz. Quand on parle de la bande dessinée, quel que soit le sujet, j'ai l'impression qu'on aborde à propos de l'Amérique latine, si on parle de la musique, tout le monde a tout de suite une image, des noms qui lui viennent à l'esprit à propos de l'Argentine, si on parle de littérature, quand on parle de bande dessinée aussi, tout de suite on pense en effet à une tradition de la bande dessinée en Argentine. On pense, tout le monde connaît Mafalda par exemple, hein, qui a une audience internationale, alors que si J'avoue que si on m'avait demandé d'animer un débat sur la bande dessinée en Uruguay ou même au Chili, alors j'aurais eu beaucoup de mal, peut-être, parce qu'il y a probablement. Alors, c'est ma connaissance, en l'occurrence, qui est en cause. Mais quand on parle de l'Argentine, vous m'accorderez que le grand public, tout de suite, a des noms, des images qui viennent à l'esprit. Alors, je voudrais savoir déjà un petit peu quelle est l'importance d'une tradition particulière en Argentine. Est-ce que Quino, par exemple, a fait école, a suscité, je ne sais pas moi, beaucoup de prosélytes, ou bien comment, quel est le statut de la bande dessinée en Argentine ?
Bonsoir, je suis aussi dans la douce obligation de remercier le Centre Pompidou pour l'élaboration de cet endroit mélangé de nous avec notre différent chant. Je suis très content de participer et de tenter de chanter mon petit chanson. Alors, Quino, pour exemple, il y a différents clubs dans ce qu'on appelle la bande dessinée argentine de Buenos Aires, du pays argentin. Quino, il vient de ce qu'on appelle les côtés humoristiques, pensants, surréalistes. Que je viens, pour exemple, mon travail, il vient originer dans la courant aventureux humain, dans les côtés de Westerhel, Prat et Brecha. Mais je vais aimer toujours dans mon enfance et dans mon jeunesse aussi les produits qui sont été les maîtres principaux de Quino, comme Bataglia, Blota et l'agent du magasin Ricotipo, encore un extraordinaire de penseur, joueur, dessinateur de l'Argentin heureux qu'on insiste en avoir vécu. On insiste que l'Argentin de notre enfance, on m'a dit, dans l'époque du péronisme, tu, Muñoz, tu as eu la fortune d'être gamin. Et je considère que ça peut être été une fortune pour ne pas pouvoir percevoir les violences démocratiques de ce régime qui a donné, on doit dire, dignité aux travailleurs argentins et les donnant les choses, comme disait Calveira, et les donnant les choses qu'il n'a pas pris. Alors, l'auteur du discours de Calveira m'a touché profondément et nous sommes aussi dans la plateforme en attendant les trains, en rêvant notre petit songe d'une Argentine de notre enfance heureux et dans lequel la bande dessinée, à moi, il m'a pris presque dans mon premier éclat de raison. Je suis tombé amoureux de l'école, comme je disais, d'Alberto Breccia, de Hugo Pratt et d'Hector Westerhel comme écrivain. Et cet mélange de mots et de dessins et de mots que quelquefois nous fait quelquefois il donne pour les faiseurs de seules images ou pour les faiseurs de seuls mots, quelquefois c'est une chose difficile de comprendre cet mélange qu'on vit comme chose normale de notre vie. Et on se rappelle qu'à l'origine de notre espèce, les dessins ont contribué à la création de mots et alors on met ensemble des choses qui se sont séparées après leur naissance ensemble.
Alors, sur ce mélange de mots et de dessins, je pense qu'il y a quelque chose de particulier dans la manière dont vous travaillez, en particulier avec Carlos Sampaio. C'est que vous savez qu'on a en France cette espèce de définition, ce qu'on appelle le roman graphique. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Les éditeurs ont quelquefois eu du mal à imposer cette idée. Mais l'idée que la bande dessinée n'était pas seulement du côté de l'image, mais du côté de la narration, du côté du roman. Et dans votre travail, c'est très évident. Il y a autant d'importance accordée au texte qu'à l'image.
Et nous venons, comme je vous disais, de l'école de Westerhel avec Brecha et Prat, que ça a été la dignité, ça a été donné à tous les deux secteurs, que j'insiste, sont deux fractionnements d'un des premières merveilles de l'humain, quand l'humain a commencé à dessiner dans la grotte dans laquelle il s'est caché pendant la nuit pour échapper des bêtes. Ils ont commencé à dessiner magiquement les bêtes pour les pouvoir contrôler. Aussi, les dessins ont donné origine à l'être, les lettres ont donné origine à mots, les surlements gutturels ont donné origine à langage. Nous sommes ici avec quelquefois des problèmes, comme on dit, sectoriels, de séparation des différents instruments d'expression de l'humanité. Et dans les côtés à nous de notre travail avec Carlos, on a toujours regardé la littérature, les dessins, le cinéma, la peinture comme éléments naturels de notre désir expressif, et aussi la réalité, comme on dit, exigeante de l'Argentine, sanglante, de la tuerie, comme on dit, nous a aidé un petit peu aussi à développer notre tempérament mélancolique, mais joyeux, cet lieu commun de description aussi du caractère des Argentins, en part ça c'est vrai, en part, mais comme on dit, comme a dit bien Calveira, on vient d'une histoire récente, sauvage, incompréhensible entre tueries et on rêvait au moins dans notre enfance et notre adolescence de nous trouver dans un espace de mélange réussi dans lequel les gens pauvres du monde pouvaient arriver à acheter la dignité que dans les pays d'origine on les niait avec les guerres perpétuelles et l'exploitation sauvage. L'Argentine, ça a été un refuge pour beaucoup de communautés économiques et raciales persécutées et humiliées dans tous les pays du monde. Alors, on est un fragment rêvant d'un rêve immense qu'on a fait ensemble, que notre précédent, que notre ancêtre nous ont donné la possibilité de faire. On continue à rêver avec tout notre mort dedans, qui continue à rêver dedans nous. Et ça, on peut aussi tenter de le dire en bande dessinée.
Alors, Carlos Sampaio, vous venez de publier un roman, L'année où le lion s'est échappé. Est-ce que vous faites une différence dans vos activités entre votre travail dans le domaine de la bande dessinée et votre travail de romancier?
Bueno, en principio... Muchas gracias por haberme invitado y por estar aquí. Me siento muy cómodo, confortable y bienvenido. Y eso es muy bueno. Y la pregunta no es la primera vez que me la hacen y es un poco extraña y de difícil respuesta. Pero bueno, trataré de sintetizar. Por un lado, en el tema de la BD siempre está el apoyo y la comodidad no solo de un dibujo que vendrá después del guión, de la scénégature, ¿no? del escenario, sino también la comodidad de apoyarme en el talento de otra persona. Y esto quiere decir una doble visión sensible sobre lo que estamos tratando de reflejar. Y por lo tanto, incluso en la elaboración de la historia, en la medida en que vamos hablando, ¿no? Hay una corrección, una seguridad y en todo caso también una inseguridad compartida. Me refiero específicamente a mi trabajo en común con José, que es una obra de creación compartida. En cuanto a la cuestión narrativa, la novela, es decir, esta novela se acaba de publicar, pero en realidad creo que es la cuarta mía. Allí hay, a diferencia de la BD, una soledad absoluta frente al proyecto. Y el proyecto, en mi caso particular, nunca es un proyecto, en realidad... Parto de una idea general y después dijo que esto vaya fluyendo. ¿Quieres traducir?
Alors, moi aussi, bien évidemment, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont invité, m'ont permis d'être ici cet après-midi avec vous. Je me sens très à l'aise ici, très chaleureusement accueilli. C'est très bien et je vous en remercie. Alors, pour répondre à votre question, ce n'est pas la première fois peut-être qu'on me la pose, mais la réponse est quand même très, très difficile. D'un côté, dans la BD, on se sent très réconforté par l'idée qu'un dessin viendra s'appuyer sur le scénario qu'on écrit et que la responsabilité de la création est partagée, que l'on peut s'appuyer sur le talent d'un autre et que l'appréhension, la vision de la réalité sera double, sera partagée. Et donc, on partage également dans la création, l'élaboration d'une histoire, à la fois la sécurité et l'insécurité que suppose cette création. Et je parle en cela tout à fait particulièrement de mon travail avec José, parce que là, je partage profondément cette création avec lui en matière donc, de bande dessinée. En revanche, pour en revenir à votre question et à ce roman que vous citiez, qui est en fait mon quatrième roman, alors là, c'est la solitude tout à fait absolue. En fait, au départ, je n'ai jamais un projet préconçu. Je pars comme ça d'une idée et ça se poursuit.
Después hay un hecho que es, creo que es interesante, que yo llegué a la BD a partir de la literatura, del interés por la literatura y el cine, no al revés como ha hecho bastante otra gente. Es decir, llegué ya siendo adulto, teniendo 30 años, una vez que lo conocí a José. Y por lo tanto llegaba con otro esquema mental. No leía BD desde que era niño. Es decir, no venía, por un lado no venía contaminado y por otro lado tenía la menor experiencia. Y lo que significaba para mí una narración en texto no tenía secretos en cuanto a la mecánica. En cambio, con la BD tuve que aprenderlo todo. Narrar por imágenes es una cuestión muy seria, realmente muy difícil. Esto lo saben los cineastas, sobre todo aquellos que son serios, no condicionados por la producción. Y por supuesto lo sabemos los historietistas, los que trabajamos en BD. En cuanto a la narración sin imágenes, a la narración literaria, bueno, esto es un problema que en realidad a lo mejor esta no es sede para hablarlo porque es un tema muy vasto. Lo que sí, ateniéndome a la pregunta que refería a la diferencia entre una y otra cuestión, incluso hay una actitud física diferente a la hora de escribir una u otra cosa. Es decir, trabajo de otra manera. Es como si trabajara en dos cuestiones diversas, en dos especialidades dentro de una misma profesión, que creo que en realidad se trata de eso.
Je suis, quant à moi, venue à la BD à partir de la littérature et du cinéma. En fait, j'étais déjà adulte quand j'ai abordé la BD, quand je l'ai découverte. C'est au moment où j'ai fait la connaissance de José, j'avais déjà 30 ans. Je n'étais pas un lecteur enfantin de la BD, je n'ai pas connu la BD dès mon enfance. Je suis arrivée à la BD, donc, de façon... J'étais tout à fait vierge, en quelque sorte, tout à fait naïf et pas du tout expérimentée, évidemment, de ce fait même. Et pour ce qui est de la narration, proprement dite, il n'y a pas de secret, mais lorsque l'on fait de la narration pour la BD, en fait, moi j'avais tout à apprendre et j'ai tout appris, parce que raconter par l'image, c'est très différent et c'est très difficile. Et tout cinéaste sérieux et non influencé par un producteur, disons, ou par un studio de production, pourra vous en dire autant. La narration littéraire, purement littéraire, ça c'est un vaste sujet, c'est tout à fait autre chose. Même l'attitude physique que l'on peut avoir face à la narration littéraire pure est différente. En fait, c'est un travail fondamentalement différent et même l'attitude physique que l'on a par rapport à ces deux activités sera différente.
Très concrètement, comment vous êtes-vous rencontrés et comment avez-vous fait le projet de travailler ensemble? Parce qu'on aurait pu penser que vous alliez travailler sur le thème, je ne sais pas, d'une certaine nostalgie de l'Argentine. Or, ça n'est pas du tout ça, votre projet.
Au commencement. Alors, là, qui commence? José Muñoz? Carlos Sampaio?
Bueno, nos conocimos hace 30 y algo de años. En España los dos éramos expatriados voluntarios, un poco lo que dijo Daniel de sí mismo, es decir, elegimos una expatriación, aunque después se transformó en exilio, porque a partir de un cierto momento no pudimos volver, pero salimos de allí voluntariamente buscando un poco de nuevos y más puros aires. Y establecimos una amistad, un entendimiento personal, y de allí surgió a través de la intervención, de la idea de una tercera persona, un amigo nuestro, Óscar Zárate, dibujante, actualmente vive en Londres, y surgió la posibilidad, que conocía el trabajo de ambos por separado, la posibilidad que hiciéramos algo juntos, y fue exactamente eso lo que hicimos. Fue una idea muy buena de este amigo nuestro, nos entendimos inmediatamente, y allí surgió. Estábamos hablando del mes de julio 1974. ¿A qué hora? ¿A qué hora? No me acuerdo.
11 y cuarto.
Sí.
Como un vieux couple qui compte.
Y esto mecánicamente responde su pregunta. Al resto lo dijo a José, que tiene más argumentos.
Eh bien, nous nous sommes connus il y a une trentaine d'années. Nous étions à ce moment-là des expatriés volontaires en Espagne. Je dis bien expatriés volontaires. Cette expatriation est ensuite devenue un exil parce que nous n'avons pas pu rentrer. Mais au départ, en fait, nous avions quitté l'Argentine pour partir à l'aventure, à la recherche d'un air plus pur. Et puis voilà, nous nous sommes connus, nous sommes liés d'amitié. Et puis Oscar Zárate, un ami commun, un dessinateur qui habite aujourd'hui à Londres et qui connaissait notre travail à l'un et à l'autre, nous a proposé de travailler ensemble. Et voilà, ça s'est fait comme cela. Ça s'est passé en juillet 1974. À quelle heure ? Eh bien, à 11h15.
Du matin. Et... J'ai à dire que Carlos, il sortait de la, comment dire, de la imbécilité professionnelle de la publicité. Il avait bossé plusieurs années en se gagnant sa vie, sa soupe, comme tout nous faisons commerce de nous-mêmes, mais quand même la publicité, ça c'est, comment dire, une imbécilité exagérée pour se gagner la vie, mais on respecte tout le monde, ça c'est clair. Et j'ai sorti aussi de côté, comme on dit, extrêmement commercial de la bande dessinée. J'ai employé ma main avec des idées des autres, pas beaucoup intéressantes, dans l'Angleterre. J'ai, à ce moment-là, j'ai vécu pendant 2 ans à Londres, que ça c'est un endroit extraordinaire. À ce moment-là, l'après-midi du hippisme, ça a été anthropologiquement, scénographiquement, culturellement extraordinaire. Alors, avec mon petit métier, j'ai passé ces années en cette ville, mais à ce moment, j'en avais marre, alors je voulais aussi employer mon âme au travail. Et je dois dire qu'avec un rendez-vous stratégique avec Hugo Pratt à la ville de Paris dans les 72, il m'a dit: tu dois retourner, José, à les choses que tu faisais en certain moment à Buenos Aires. Ici, hélas, ça a été stratégique. Alors je me suis employé à chercher en sortie à ce moment-là. Avec Oscar Zárate, que Carlos a mentionné, qui est notre grand ami à nous, on s'est trouvé à travers Oscar Zárate et on commençait à bosser presque immédiatement. J'avais dû sortir de l'Angleterre pour la fin de permis de séjour, alors je me suis transféré, comme on dit, j'avais voyagé à la côte catalane où Carlos habitait, et dans les 11h15, ça veut dire 11h30, on a commencé à parler de faire quelque chose de policier ensemble, c'est ça.
Oui, mais alors, José Muñoz, est-ce que vous pouvez en dire davantage sur le projet qui vous a rassemblé, l'envie de travailler ensemble? Qu'est-ce qui a motivé cette envie de travailler ensemble? Parce que je le disais tout à l'heure, on aurait pu penser que deux exilés argentins allaient cultiver la fibre un peu nostalgique et parler de l'Argentine. Or, ça n'est pas ce que vous avez fait.
Exactement. À ce moment-là, parce que avec les délires rêvants de notre circonstance, ça c'est la première fois que je suis vivant, alors je n'ai pas d'expérience antérieure, de vie antérieure comme ça, je n'ai pas de capital ou d'expérience. Alors, on peut dire qu'à ce moment-là, avec le cinéma, la littérature anglo-saxon, on a connu, dans mon cas, je suis rentré aussi dans l'univers français fondamentalement pour le cinéma et aussi dans ce que nous appelons Amérique du Nord. Et alors, tout cet univers a été, d'une façon rêvant, incorporé à notre argentinité. Être argentin, ça veut dire aussi être étranger. Alors, pour nous, prendre un chemin autour de la structure, comme on dit, narrative du roman noir, aux policières, aux jaunes, comme on l'appelle dans l'Italie, ça a été normal. En regardant, en écoutant les lectures de Carlos, mon lecture et ce qu'on a trouvé ensemble pour nous promener ensemble, en faisant quelque chose aussi pour gagner notre vie, mais en employant l'âme, comme j'avais dit. Alors, nous promener pour les États-Unis, pour la ville de New York, que nous avons connu au début des années 80, ça a été absolument naturel, très argentin. Et se promener pour à New York, rêver, dessiner, écrire. Et nous avons, comme dit, inventé ensemble le caractère principal de notre aventure de bande dessinée qui s'appelle Alaxiner, que ça veut dire pas vraiment pêcheur. On l'a fait le caractère central de notre premier cycle d'histoire et on a créé un personnage qu'on aime et dans lequel on croit.
Oui.
Sí, el primer tema que surgió fue, como dijo José, una adaptación nuestra personal a la novela negra. En ese momento estábamos muy interesados y de esto vamos a hablar en la mesa específica de Román Noir en Argentina, a tratar de descifrar cuáles son los motivos de este interés. De todas maneras, era un hecho natural en ese momento que se leyera novela negra de calidad en Argentina. En ese momento había habido una gran difusión de las novelas de Raymond Chandler, de Dashiell Hammett, etc., de Jim Thompson, ¿no? Mis ideas al respecto las voy a exponer en su momento porque no quiero gastarlas ahora y después quedarme sin cosas para decir, pero nos parecía natural y si nos salió naturalmente hablar de estos temas, aunque la sede donde esto se establecía fuera un lugar simbólico como era New York, que por otra parte ni siquiera habíamos visitado personalmente. Nos salió naturalmente y esto es muy notable porque refleja el influjo de la difusión de la cultura, es decir, la cultura a través de sus diferentes medios se difunde de tal manera, cuando se difunde de tal manera, sobre todo la de origen popular como es la novela negra, se difunde de tal manera, penetra de tal manera que es admitida como un hecho natural y de allí puede ser reproducida de otro modo por hacedores, por artistas de otra lengua y de otro origen.
Oui, je voudrais moi aussi ajouter quelque chose sur ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit José quant à notre adaptation personnelle, tout à fait naturelle et facile au roman noir. Mais je crois qu'une séance est prévue sur ce sujet spécifique et donc j'y reviendrai le moment venu. Je voulais simplement dire que le roman noir, c'était quelque chose qui, à l'époque, notamment en Argentine, était tout à fait populaire et naturel. Je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une séance demain et je veux garder mes idées, parce que sinon je n'aurai plus rien à dire demain. Mais ce que je voudrais dire ici aujourd'hui, c'est que insister sur cet aspect naturel des choses. Les lieux étaient très symboliques, par exemple, comme New York, qui nous était parfaitement inconnu. Eh bien, c'était un lieu pour nous tout à fait abordable en raison de l'influx de cette diffusion d'une culture populaire, surtout populaire comme l'est le roman noir. Eh bien, il paraissait tout à fait naturel de s'y installer. On y trouvait tout à fait naturellement sa place.
Et je dois ajouter aussi que pendant 10 années, pendant les années plus obscures de la dictature sanglante que l'Argentine a subie en 1974, quand on s'est connu, ça a commencé la tuerie organisée pour le pouvoir réel, factique, qu'on dit de notre pays, à l'envers part de la population éveillée. Et pendant ces 10 années, nous n'avons pas eu aussi dans notre conscience la possibilité de penser à confronter avec notre métier en réalité comme l'Argentin. Nous avons considéré New York comme un quartier de, comme un quartier de Buenos Aires et en faisant revanche, ça a fonctionné, ça a été vrai pour nous. Nous sommes été des Argentins qui ont travaillé avec des thématiques très à la mode en Argentine, la tuerie, la paranoïa, l'ambiance du noir, comme on dit, politique, sociale, anthropologique, il a formé partie aussi avec, comme on dit, des sources argentines en train de se traduire à différents univers nord-américains, appris avec la littérature et le cinéma, j'ai dit, et aussi dans les moments dans lesquels la nuit sanglante de la tuerie finissait au début des années 80, les guerres de Malouines, c'était une chose qui nous a, comme on dit, fait. J'ai bégayé parce que je ne peux pas me contenir. J'étais un bégayant professionnel de petit, quelquefois ça me prend encore. Et nous avons pu commencer à toucher le matériel de notre vie réelle vécue à la fin de la dictature. Nous ne pouvons pas toucher l'Argentine directement pendant ces 10 années.
Oui, Carlos Sampaio. Oui, allez-y, je vous en prie.
Sí, no, a esto quiero agregar que durante esos años, porque antes hablamos con José de un dibujo de Argentina, de un dibujo, de una reconstrucción, un dibujo en un sentido más amplio, no solo gráfico. Y durante esos años lo que se me ha ocurrido es que se desdibujó, de alguna manera quedó nuestra realidad, quedó cancelada, de tal modo que, como bien decía él, tuvimos naturalmente trasladamos toda nuestra necesidad de crear a un ambiente que era neutral y que en todo caso era ideal, digamos, era una idealización negativa y positiva, naturalmente. Pero como que cayó un velo, ¿no? Es decir, allí estaban pasando cosas, lo sabíamos, trabajamos incluso para desvelar este tipo de cosas que ocurrían, pero en el fondo, aunque no lo hablamos en ese momento, ocurrió como que no nos sentimos, tal vez con derecho, a describir aquello, porque en realidad no sabíamos. Aquello estaba ocurriendo, pero no sabíamos cuál era la entidad real. Después resultó que era mucho peor que lo que hubiéramos podido imaginar, ¿no? Quería agregar esto nada más.
Je voudrais ajouter quelque chose. Je voulais dire que pendant toute cette époque dont José vient de parler, nous avons parlé entre nous d'un dessin, un dessin au sens large. Je ne parle pas simplement d'un dessin au sens graphique, un dessin au sens large de l'Argentine. Pendant toute cette année, d'une certaine façon, la réalité argentine, nous l'avons dédessinée. Nous ne pouvions plus la dessiner directement. Notre réalité avait été en quelque sorte annulée. Nous avons dû transférer en fait notre potentiel de création vers un lieu idéal, neutre en quelque sorte. C'est une forme de délocalisation géographique et mentale. Sur l'Argentine, un rideau était tombé. Nous ne savions pas vraiment ce qui se passait. Nous savions bien sûr qu'il se passait quelque chose. Nous essayions d'œuvrer à transpercer cette obscurité, à y voir plus clair derrière ce rideau. Mais en fait, nous n'avons jamais parlé ensemble. Nous ne nous sentions pas le droit de décrire ce qui se passait derrière ce rideau, car c'était indescriptible. Et nous ne savions pas exactement ce qui s'y passait, parce que quand la réalité nous a été connue, eh bien, elle était bien pire que ce que nous avions envisagé.
Les albums de Muñoz et Sampaio sont très noirs, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Daniel Mordzinski, je voudrais vous demander de commenter une remarque. Je crois que c'est José Manuel Farrardo dans la préface, justement, à ce catalogue d'exposition, qui, à propos de El País de las Palabras, le recueil de photographies d'écrivains latino-américains en Europe et à Paris plus précisément, emploie cette expression, un pont océanique, en disant on ne peut pas comprendre la littérature hispano-américaine sans ses liens avec la littérature européenne. Et en définitive, il n'y a pas véritablement de frontière entre les deux. Et votre travail consiste précisément à abolir un peu cette frontière.
Il y a un autre écrivain espagnol qui a dit une très très belle phrase. Victor Andresco, il écrit que l'océan qui sépare l'Amérique latine de l'Europe est trop grand pour être vrai. Et si nous pouvons modestement, avec nos dessins, nos écritures, nos images, nos photos, contribuer à réduire cette image, je crois que c'est un bon début. En ce qui concerne El País de las Palabras, et c'est un travail que j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Et j'entendais José et Carlos qui évoquaient qu'ils ont un peu commencé en arrivant en Europe, et leur univers imaginaire avec New York ou Londres. Et pour moi, quand j'étais jeune, c'était clair que c'était Paris. n'y avait pas une autre ville dans le monde avec laquelle j'ai rêvé. Je peux vous dire même que quand j'étais gosse, je n'étais pas sûr si je voulais être metteur en scène, pompier, astronaute. Il y avait une seule chose que j'étais sûr. Je voulais vivre à Paris. Quand je ne parlais pas les français, mais j'ai lissé les écrivains français, quand j'ai rencontré mes amis, les lieux de rendez-vous étaient les cafés Molière. Et quand on avait un petit peu plus de sous, ça n'arrivait pas souvent, c'était les cafés de la paix à la Recoleta. Et donc, évidemment, c'était les paris métaphoriques de Rachuela, de Marel, de Cortázar, mais c'était Paris. Et donc, j'ai eu la chance, en arrivant à Paris, on m'a proposé de faire une expo. C'était des images très innocentes, des images fragiles, des images à mon image. Et j'ai accepté tout de suite. Et puis, la chose presque la plus importante de cette expo, c'était un coup de fil que j'ai passé à Cortázar. J'ai trouvé son numéro, je l'ai appelé. Et il y a un des premiers répondeurs qui m'a anéanti. Donc, je n'ai pas dit un mot. Et du coup, devant cette peur que j'ai eue, je me suis dit non, tu as déjà fait le plus difficile, tu es à Paris. Et donc, j'ai rappelé. Et je me souviens à peu près, pas l'heure, mais je me souviens que je lui ai dit hola, je suis personne, je n'ai rien fait, mais demain, j'ai mon premier expo à Paris. Et je serai les gosses les plus serrés du monde si tu pouvais venir. Et il est venu. Il est venu, il n'avait pas 1,90 m, il avait 3,50 m. Et j'étais tellement petit devant lui et je ne voulais pas qu'il sente que je triche, que je l'avais invité pour les photographier. Et donc, je lui fais seulement deux photos. Une à lui et puis, je crois que c'est la première fois que, comme si c'était mon Maradona à moi, j'ai demandé à quelqu'un de me photographier avec lui. C'est une photo que je garde. Je lui posais une question idiote. Je lui dis, Julio, c'est laquelle ta photo préférée? Et donc, on s'est photographié devant sa photo préférée. Et voilà, c'était donc la première photo de ces livres. Il y a 71 portraits d'écrivains que j'ai fait en France. Et j'ai osé demander un texte inédit à chacun de ces 71 écrivains où ils racontent pourquoi la France. Ce que j'ai eu mal et ce que j'ai toujours du mal à exprimer en parole, en mots, j'ai donné à ceux qui ont la parole de les faire. Et voilà, c'est merveilleux parce que il ne se répète pas. Et tout choix est partiel, arbitraire, incomplet. Et donc, il y en a 71, mais il aurait pu y avoir 250. Et ils ne sont pas tous là, mais ils sont nombreux là. Et donc, il y a une belle image de Jorge Amado qui dit, un peu pour résumer, et pour terminer cette idée de pourquoi Paris, il dit, quand je suis à Bahia, chez Saudades de Paris, quand je suis à Paris, chez Saudades de Bahia. Dans les deux villes que j'aime, il y a Célia, ma compagne de toute ma vie, un lit pour dormir et une machine pour écrire.
Alors, vous faites ce travail depuis pas mal de temps, puisqu'on a un certain nombre d'écrivains qui sont disparus, malheureusement, et les photos prennent un peu valeur de témoignage. Effectivement, il y a cette très belle photo de Borrès qui est la couverture du catalogue, je ne sais pas si vous voyez quelque chose où on voit une main tendue vers cette lumière qu'a l'air de regarder Borges, qui ne la voit pas, évidemment.
Pour ça que j'ai osé la faire.
Bien sûr, j'imagine bien. Mais on parlait justement, c'est Farrardo qui parle de respect comme l'un des ingrédients principaux de votre travail. Il y a aussi quelque chose qui est très étonnant, c'est une forme d'humour, parce qu'il y a à la fois une perfection technique et un humour. Vous arrivez, je suppose, à mettre vos modèles suffisamment en confiance pour les placer dans des situations parfois un peu inattendues. Et toutes les photos sont surprenantes. Contrairement, je ne sais pas, on a l'habitude quelquefois de photos d'écrivains, genre Studio Harcourt, où on a comme ça une espèce de perfection plastique et puis rien d'autre. Et là, il y a vraiment beaucoup d'humour toujours.
Il n'y a pas de formule secrète, je ne pourrais pas vous donner des ingrédients, mais s'il y a un élément que je crois qu'à nous tous, Argentins, nous a aidés et pour certains nous a sauvés, c'est l'humour. Bien sûr, les psys, mais à part les psys, l'humour. Et donc, je ne me prends pas au sérieux, je les lis avec sérieux, mais j'oublie que c'est des écrivains, c'est surtout des copains. Et donc, il n'y a pas un mécanisme, il n'y a pas une alchimie. Non, ça. Tu évoquais la photo de Cercas. C'est un auteur que j'ai lu, que j'admire. Et donc, il m'invite chez lui, à côté de Barcelone, et faire des photos. 40 degrés à l'ombre.
Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Il est dans une espèce de piscine, mouillé jusqu'à la ceinture, en train de lire un livre.
Shakespeare, il lit ça.
On ne voit pas sur la photo. Hein.
Et donc, tout naturellement, je lui dis, tu sais nager ? Et il rigole, il me dit, oui, dehors, il y a une piscine. Et je le regarde, première rencontre, je lui dis, tu n'aurais pas dû me dire ça. Voilà, mais c'était naturel. Ouais. Je ne voulais pas le faire à côté de ses livres, non ? Les guitaristes avec sa guitare, les dessinateurs. Vous vous souvenez que je vous ai pris une photo ensemble, vous deux ?
Oui, alors, précisément, oui.
Je ne sais pas.
Alors, José Muñoz, oui, justement, parle. Oui, parlez-nous de cette photo, parce que, justement, Daniel
Sampaio, moi, et ça a été Altuna et Centenaire. Et je me rappelle de ça, dans lequel nous sommes nous quatre. Tu as pris un moment dans lequel il y a un ballet silencieux dans lequel chacun est en train de danser sa personnalité. C'était très bien.
Sí, a mí me sacaste fotos en el Café Zurich en Barcelona y en la Plaza Catalunya.
Ouais. Sí. C'était pour un projet.
Et de regarder souvent ça, c'est bon.
Il m'a fait une photo, c'était au Café Zurich à Barcelone. Ouais. Près de la place de Catalogne.
Oui, mais je parlais précisément de la photo de vous deux.
De nous deux, d'un seul.
Oui.
A los dos solos, sí. Yo no recuerdo. Sí. Ah. Hay una foto que
elle n'est pas là, par hasard?
Non, elle n'est pas là. Hay una foto que
il faudra, sí, la sortir.
A lo mejor no la vi. Porque este es muy buen fotógrafo, pero después a la hora de enviarla...
No, ah, oui, je ne l'ai peut-être jamais reçu, parce qu'il a beau être un bon photographe, il n'envoie jamais rien.
Se las queda en casa.
Très bien, vous vous arrangerez après, vous ferez vos affaires. En tout cas, il est quand même assez, vous le dites très modestement, Daniel Mandzinski, que les modèles que vous photographiez sont vos amis, mais ce n'est pas toujours évident. Il y a des gens qui prennent ombrage des photos qui ont été faites d'eux, et donc vous entretenez une relation de confiance, vous développez une relation de confiance et une relation d'amitié. Quand on voit tout ce que les écrivains disent de vos photos, c'est que vous ne les avez pas maltraités ou contraints à des poses extravagantes. En tout cas, il y a toujours eu une espèce de relation, plus qu'une relation de confiance, puisque très souvent c'est une relation amicale qui se crée à la suite de cet échange de photographies, en fait.
Tant mieux.
Alors, oui, José Mignos, vous vouliez...
Non,
je crois que vous vouliez dire quelque chose. Moi, je voulais vous poser une question à propos, vous parliez tout à l'heure d'Alexiner, votre personnage récurrent. Pourquoi avez-vous, justement, vous auriez pu faire, comme font un certain nombre d'auteurs de bandes dessinées, choisir un personnage et vous y tenir, en quelque sorte, et faire les aventures d'Alexiner presque indéfiniment. Or, vous avez... Oui, non, mais vous avez fait ça, mais vous n'y êtes pas cantonné.
Jusqu'au moment dans lequel nous avons senti que nous avons des histoires, construire une histoire qui intéresse. Après, il y a l'écho du public, après, il y a les moments, tout ce que vous voulez, que nous avons commencé à l'actionner dans les moments très politisés de la société mondiale des années 70. Et après, ça a été comme le reflux, les changements, et tout l'a généralisé, manque de narration, manque de sens dans lequel nous sommes tombés dans l'extrême modernité que nous vivons. En torturant, en fatigant les planètes, avec la destruction bancaire des pays, à l'actionnaire peut-être qu'il n'a pas beaucoup de clarté dans sa tête pour protagoniser une histoire maintenant. Il est comme beaucoup de nous, avec un brouillard quelquefois moleste, avec la dimension de notre, comme dit, capacité de destruction des rêves collectifs, non? Et les langages excités, journalistiques, économicistes, qui on tombe avec les Bush, Rumfel, Cheney et tous les amis des amis des amis, et tout la, comme dit, le monde du commerce en pitié qui est capable de suicider l'espèce seulement pour ne pas fermer le mouvement d'accumulation de richesses, toute cette profonde connerie de notre espèce dans laquelle nous vivons. Alors, ça c'est un obstacle peut-être pour continuer à exploiter à l'actionnaire, et je n'avais jamais pensé de faire une chose comme ça. Si on trouve, comme on dit, une relation éternelle avec un caractère qu'on a contribué à créer, ça c'est absolument légitime. Après, fabriquer, comme on dit, pour la fatigue de la reproduction, que je respecte les travailleurs quand même, ce n'est pas mon tasse de thé, ce n'est pas notre tasse de thé. Et nous avons, comme je vous dis avant, tenté fortement de retourner à pouvoir toucher avec notre dessin et notre mot les pays que nous a fait naître et les premiers rêves que nous avons rêvés.
Alors, précisément, comment avez-vous été, c'est peut-être une question un peu anecdotique, mais comment avez-vous été accueilli par l'univers de la bande dessinée en France, par les éditeurs, tout simplement, parce que vous avez quand même un ton qui est très singulier et qui n'était pas très représenté dans la bande dessinée française au moment où vous avez commencé à en publier. Maintenant, c'est devenu un peu, vous avez fait école, bon, je ne sais pas, en tout cas, ça s'est développé. Mais...
Nous sommes en ligne très respectée, pas exagérément achetée, mais nous avons compris, comme on dit, un respect qu'on goûte jour par jour en travaillant, parce que nous avons travaillé aussi pour ça, nous avons gagné. Et nous avons gagné notre petite place dans les champs. Je dois dire que nous sommes rentrés pour la porte très ingénieux, très arbitraire, très génial de Charlie Mensuel de la moitié des années 70 ici dans la France, avec toute la famille de Reiser, Volansky, Cavana, GV. Nous sommes rentrés dans la publication Charlie Mensuel et ça a été un portrait grand aussi dans lequel, comme dit, notre produit spirituel était bien montré. Alors, après ce grand début dans lequel on était très excités, et aussi en fréquentant physiquement la France, nous habitons dans l'Italie, et ça c'était le moment dans lequel on a commencé à découvrir la réalité de cette ville, de ce pays, avec la grande émotion d'être recueilli pour des gens intelligents et respectueux. Alors, ça a été un début exceptionnel. Après, les difficultés de la maison édition du Square ont fait dériver notre travail à Lambert Lacasterman à suivre, que ça a été aussi un grand moment de ce qu'on appelle aussi, j'accepte, peut-être que je peux discuter cet concept de roman graphique et des choses comme ça, ce type de, comment dire, d'amalgame verbal qui ont tant... Nous sommes aussi des inventeurs de mots, parce que le langage n'est pas fini, nous sommes aussi des co-auteurs de mots, il y a des réalités qui ont besoin d'un nouveau mot, et alors on tente de les... Et peut-être que ce n'est pas le mot plus intéressant que je trouve roman graphique, mais ça c'est un détail secondaire. Et après, de à suivre, nous sommes été, comme on dit, nous avons ouvert avec notre travail la porte esthétique et politique de ce type de travail dans la bande dessinée, nous sommes conscients de ce que nous avons fait, en train de nous sauver la vie, mais de nous sauver la vie d'une façon, comme on dit, et nous sommes en très bonne liaison avec l'agent qui nous a suivis. Il y a des refus à l'envers notre, comme on dit, contamination ou infection de terrain pur de la bande dessinée, mais on peut rire ensemble de ça.
Oui, mais vous dites inventeur de mots, José Muñoz, mais inventeur de forme aussi, parce que la forme est très originale.
Oui, oui.
La manière, le dessin, le type de graphisme que vous employez.
Parlant côté dessin, aussi, le tremblement de chaque travailleur qui est en train de décrire avec son main, le tremblement de son corps, un autre corps, une atmosphère, un nuage, un visage, une tasse de café, on tremble d'un faisceau jouissant. Il y a des coupes de froid et de chaleur qui sont en train de voyager dans ton corps parce que tu es en train d'entrer en contact avec un univers que tu déjà connais, que tu habites, mais tu es en train de donner une autre interprétation, d'ajouter la réalité avec toute la musique de ton corps. O sea, ça, c'est comme on dit, un des cadeaux que la vie m'a donné, sans exagérer, je suis en train de les goûter encore. J'espère que jusqu'à la fin de ma jour, je peux continuer à prouver ce type. En parlant côté des sangs purs physiques et après, et simultanément, on peut dire que l'origine de mes cols de perception, les Brechats, les Prats, l'expressionnisme dans les côtés européens, on sait comment on dit, la sensation de l'émotion filtrée, du regard à l'envers, les stupeurs et la merveille en devant le monde, des objets du monde, la beauté du scénario et la noirceur que vous avez mentionnée, c'est la beauté du dessin, de la réalité et la médiocrité très forte du scénario de l'espèce que nous sommes. Alors, en usant une image un peu bande dessinée, comme le scénario de l'espèce, ce n'est pas l'auteur du dessin.
Oui, Carlos Sampaio, sur cette invention formelle, vous pourriez dire quelques mots, parce que il me semble qu'il y a effectivement un langage que vous avez mis au point, à la fois un langage scénaristique, graphique, qui est, comme on le disait, très, très original dans l'univers de la bande dessinée.
Bueno, pienso que no realmente no lo ideamos, sino que desarrollamos una serie de energías que en este sentido las hicimos confluir. Y por otra parte, pienso que en el origen de esta actitud está precisamente el ser argentinos. Es decir, no estar sujetos a unas constricciones académicas, sino obligados de alguna manera a crear para sobrevivir, ¿no? Porque si no, allí no se sobrevive y por lo tanto, habiendo crecido de este modo, nos pareció siempre natural tener que inventar cosas o, por lo menos, como decía antes, desarrollar cosas que estaban en el aire. Aquí juntamos parte del expresionismo cinematográfico alemán y después proyectado sobre el cine norteamericano y también sobre la ilustración, la gráfica y la pintura. También hay algo de la narración del teatro y el cine norteamericano y también inglés de principios de los 60. Elementos que nos eran útiles, no por ser víctimas de un colonialismo cultural, digamos, simplemente nos eran útiles como fueron útiles tantas cosas dentro de nuestra cultura argentina basada en los flujos de la inmigración, tanto física como espiritual, ¿no? Y por lo tanto no creemos haber inventado algo, simplemente era algo que estaba allí y bueno, lo vamos haciendo día a día. Tampoco esto está terminado, como decía José, vamos a seguir y nos van a tener que aguantar, ¿no? Todavía tenemos muchas cosas que hacer y probablemente saldrán soluciones novedosas y tendremos siempre una cantidad de lectores tan discreta como seguimos teniendo hasta ahora, porque no tenemos la menor intención de prostituirnos. Eso es la verdad, para hablarlo con palabras simples. Podríamos haberlo hecho, es decir, era cuestión de aplicar un resorte económico, pero no lo quisimos hacer. Y quería agregar eso.
Oui, en fait, je voudrais ajouter quelque chose. Nous n'avons pas inventé ce style, nous n'en sommes pas les inventeurs. Nous avons développé des énergies, nous avons tiré parti de confluence. On peut dire qu'à l'origine de tout, il y a le fait d'être argentin. À ce moment-là, il faut créer en quelque sorte pour survivre. Donc pour nous, il était naturel de développer ce qui était en l'air, ce qui était dans le climat du moment. Cela dit, l'expressionnisme dans le cinéma allemand notamment nous a certainement beaucoup nourris, puis dans le cinéma américain, autant dans le cinéma d'ailleurs que dans le dessin, la peinture, et puis peut-être aussi le théâtre et le cinéma américain-anglais des années 60. Nous en avons fait aussi notre profit, notre miel, mais cela ne veut pas du tout dire que nous ayons été victimes d'une sorte de colonialisme culturel. Loin de là, non, je pense que l'Argentine, de toute façon, elle-même s'est nourrie, a constamment fait son miel, en quelque sorte, des flux migratoires successifs. Donc nous n'avons rien inventé, c'était là, d'une certaine façon, et nous allons continuer, en fait. Il faudra que vous nous supportiez encore assez longtemps. Nous avons encore beaucoup de nouvelles voies, de nouvelles solutions à explorer. Et, bon, notre lectorat restera probablement aussi discret qu'il l'est à présent, mais nous ne changerons pas pour autant. Nous aurions pu changer pour agrandir le cercle de nos lecteurs, mais ce n'est pas notre choix.
Ne changez pas, surtout restez comme vous êtes. On parlera justement de vos projets, mais peut-être avant d'évoquer ces projets, avez-vous des remarques, des questions que vous voulez poser aux auteurs? Il vous suffit de lever la main, on voit pas. On a un peu la lumière dans les yeux, on ne voit pas forcément, mais si vous levez la main, je pense qu'on verra. On vous verra. Non?
Pour laisser la place à la deuxième question,
oui, je pose la première, vas-y.
Je ne vais pas poser une question, je vais faire une remarque.
Oui.
Je voulais dire que pour moi, le travail de Carlos y José est un travail exemplaire. Je m'en sers et je me suis inspiré. Et je crois qu'il y a des liens, des passerelles, des correspondances entre les textes et l'image. Et justement, comment ils les font. Et une image qui sert pas, qui se réduit pas à montrer ce que les textes écrits, un texte qui n'explique pas ce qu'on voit, et donc c'est une troisième voie. Et quand je voyage avec des écrivains, j'essaye justement d'appliquer ces mêmes principes, la quête de cette troisième dimension. Ça peut paraître prétentieux ou conceptuel, mais c'est vraiment un travail des 1 plus 1 égale 3. Voilà.
Quand vous dites, Daniel Manzanski, je m'en suis inspiré, vous pouvez en dire un peu plus
dans quel sens? Oui, c'est ça donne des idées,
voilà,
oui,
ça donne des idées,
leur démarche, oui. N'est pas à réduire, sinon de chercher au-delà. Deuxième question.
Alors, la première question ayant été, la première intervention ayant été faite, oui, alors, on va vous passer le micro, attendez.
Je voulais poser une question à Daniel. Tu as parlé de tes voyages avec tes écrivains. Je voudrais que tu précises un petit peu plus quel type de travail tu fais quand tu voyages avec eux.
Alors, mon premier voyage, reportage, aventure, périple, je l'ai fait avec Luis Sepúlveda. On est parti dans son univers, la Patagonie. Vous savez, la Patagonie, c'est un univers infini, vaste, et pourtant, on pensait faire des milliers de kilomètres, mais les histoires nous appelaient, les histoires venaient à nous, et donc finalement, on est resté dans un tout petit village pendant 2 mois. Et on s'est imposé à nous-mêmes une structure narrative, une excuse, c'était les Patagonia Express ou Trochita. Et donc on s'est dit qu'on allait les prendre et raconter des histoires, des rencontres, des histoires qui se passent à l'intérieur du Patagonia Express. Et donc chacun voyageait avec des écrivains qu'il aime dans leur poche. Moi, j'avais Chatwin qui m'accompagnait. Et donc, j'avais lu justement dans Patagonia de Chatwin qu'il y a dans un petit bled perdu en Patagonie qui s'appelle Cholila, où les bandits Butch Cassidy a vécu pendant 3 ans. Et donc, du coup, on voit que Cholila est un des arrêts du Patagonia Express, mais qu'à cause de la globalisation et la privatisation, les trains ne s'arrêtaient plus à Cholila parce que ce n'était pas rentable. Et donc, on a quand même pris les trains et on a réussi à convaincre les trains de s'arrêter à Cholila. Et donc, juste avant d'arriver, on s'est dit, la pire des choses qui peut nous arriver, c'est qu'il y ait un panneau, ici, vécu, Bachkassidi. Mais pas du tout. Personne ne connaissait rien, et heureusement pour nous. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Si on descend, les prochains trains passent en 4 jours. On a pris les risques, c'est pour ça qu'on est des aventuriers. On a commencé à marcher. Et quand on posait la question, personne ne connaissait cette histoire. Mais quelqu'un nous a dit, allez voir la gringa. Donc, tout droit, à gauche, à droite, tout droit, et demander. On arrive finalement chez la gringa, et la gringa était devant la porte, une vieille femme, et Juanita, 92 ans, qui nous attendait. Il n'y a pas les téléphones, il n'y a pas l'électricité, mais les gens s'en parlent. Et donc, elle nous dit, los estaba esperando, je vous attendais. Bon, première question qu'elle nous pose, merveilleux, magique, est-ce que vous avez du temps? Donc, elle nous demande à nous si on a le temps. Donc, on a dit oui. Elle nous dit, suivez-moi. Elle nous accompagne à un petit cimetière. Elle s'assoit sur une tombe et elle nous dit, voilà, c'est le tombeau de mon papa. Mon papa était le shérif que la chance de détective Pinkerton a envoyé pour chasser et tuer Bachkassidi. Et il s'appelait Sheffield, comme Juanita Sheffield. Il les a trouvés, mon papa, parce qu'il était le meilleur. Mais avant de les trouver, il a trouvé ma maman. Et il est tombé fou amoureux. Et Juanita commence à nous raconter cette histoire de cette rencontre où, d'après Juanita, il est allé voir Bachkassidi. Il a fait un deal avec lui qui consistait à ne rien dire à la Pinkerton qu'il les avait trouvés. Et en échange, Bachkassidi lui donnait la moitié de ce qu'il avait volé dans la dernière banque à Buenos Aires. Alors, c'est incroyable parce que, du coup, notre pays, l'histoire est plus magique, plus grande que la fiction. Imaginez-vous qu'est-ce que Sepúlveda peut faire avec ce qu'on a vécu. Voilà, c'est ça, raconter cette histoire à deux voix. Moi, ce que j'essayais de dire quand tu me demandais comment suivre l'exemple, j'essaye pas de faire des images trop descriptives, c'est-à-dire évidemment que dans les livres qu'on va publier l'année prochaine aux éditions Métayer Seuil, il y aura une photo de Juanita Sheffield, il y aura ses cimetières, il y aura les trains, mais j'essaye... Vas-y.
Oui, ça ne donne pas envie de raconter des histoires, parce que la photo, ces photos ne vont pas te rendre compte de l'histoire que tu nous racontes, là.
Oui, mais il ne faut pas les réduire à la description. Ouais. C'est-à-dire que il y a déjà la maison de Juanita, il y a ses mains, il y a toute une série d'éléments visuels qui peuvent être beaucoup plus intéressants que... c'est que la presse quotidienne nous habitue à réduire justement.
Oui. Une autre question, une autre remarque? Non? Moi, j'en ai juste deux petites. Alors, ça ne vous empêche pas, si vous en avez une autre, de la poser. Mais la première question, c'est, elle s'adresse à tous les trois, c'est pourquoi le noir et blanc? Alors, je sais que c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des photos en couleur, mais globalement, ce sont plutôt des photos en noir et blanc. Et le travail de Muñoz et Sampaio est plutôt aussi en noir et blanc. Alors, pourquoi?
Ah. Alors,
Qui le veut?
Pour moi, je me suis élevé dans un monde blanc et noir, cinématographique, bande dessinée, ça a été la réalité. La réalité, c'était blanc et noir, et le décor de la réalité aussi, la vie réelle, ça a été avec les autres couleurs. Et pour moi, ça a commencé comme ça, et je me suis développé aussi avec, en regardant l'univers graphique de grands maîtres de la bande dessinée qui m'ont enseigné, aussi des gens que je n'avais pas connus, aussi, en acceptant naturellement toute la lumière d'un côté, toute l'ombre de l'autre côté, ce jeu, comme on dit, logique binaire, on peut dire, pour critiquer. Et aujourd'hui, c'est qu'on continue à bosser fondamentalement dans blanc et noir, dans notre bande dessinée, on est devenu l'abstraction aussi. C'est qu'on fait dans. C'est le lieu de les générations qui sont arrivées avec l'empire de colorier, ils n'ont pas aussi l'habitude de décodifier immédiatement toute la lumière d'un côté, toute l'obscurité de l'autre côté, tout l'ombre de l'autre côté. Des figuratifs, des réels, je peux dire, nous sommes devenus astrés, mais c'est une chanson très intéressante de continuer à chanter pour certaines histoires. Par exemple, maintenant, Carlos et moi, nous sommes en train de concocter une histoire basée dans la vie de Carlos Gardel, le chanteur argentin de tango, un des inventeurs de tango canción, et nous sommes en train de jouer notre jeu avec beaucoup de respect pour la tendresse du mythe de la personne de Carlos Gardel, et nous avons aussi profité un peu cette idée pour pouvoir dessiner le monde de la création, la mélange que ça a été cet Argentine rêvant qui recevait beaucoup de gens des autres pays, la mélange qui a donné comme résultat le tango avec d'origine africaine, mélangé avec les Italiens, alors avec les blancs et les noirs, avec la lumière de la brillantine, avec les éclats de la guitare et du dan de Gardel, on est en train de faire un fête en blanc que le marbre, mais aussi on fait, je fais des autres couleurs pour différentes urgences que j'ai besoin de toucher, la pampa, le ciel immense de notre pays, que je suis en train de bosser dans des autres choses simultanément, mais le blanc et noir, c'est un chanson, je suis un peu musical aujourd'hui, j'aime beaucoup.
Y suscribo la primera parte de lo de José, y por nuestra edad hemos recibido toda la información sensible, incluso vital, en blanco y negro. Yo agregaría que hasta la radio era en blanco y negro, porque incluso lo que se nos transmitía a través de la radio era imaginado de esa manera, porque se pasaba a través del cine, de lo que veíamos en cine, que era en blanco y negro. Entonces no existía la televisión. Cuando yo particularmente veía alguna película en color, a finales de los 40, principios de los 50 eran pocas, no me las creía, realmente me parecían una ilustración exagerada.
Es decir, la Forêt Violet,
sí. No me lo creía, es decir, el blanco y negro era la realidad. Después uno en el cuaderno de la escuela dibujaba en color, pero el blanco y negro era la realidad. Después cuando escribo, y esta es una, cuando tengo imágenes gráficas, las imagino todavía en blanco y negro. En todo caso hay grises, no es un blanco y negro contrastado, pero las imagino en blanco y negro. Efectivamente, sí. Si el lector se molesta a ver las cosas que yo escribo, no hay descripciones de cosas en color. Es decir, no existen. A lo mejor algún apunte, pero nada más, ¿no? Pienso que es parte de lo que recibimos por una cuestión generacional. Simplemente eso. En este momento sería bastante inconcebible, o en todo caso es una elección estética precisa, que en el caso nuestro no creo que lo sea. Me parece más natural que en el caso de una elección, que es lo actual. Por eso insistimos también en trabajar en blanco y negro, aunque estamos abiertos a todo, Incluso las películas actuales, cuando aparece alguna película en blanco y negro forzado, como puede ser Manhattan de Woody Allen o la película de Jarmusch, a mí me gustan, es decir, me suscitan reconocimiento.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait José. C'est une question d'âge et de génération. Étant enfant, en grandissant, toutes les informations sensibles qui nous parvenaient étaient en noir et blanc. Je pourrais même dire que la radio elle-même était en noir et blanc, car elle renvoyait à des images de cinéma, d'actualité, qui étaient en noir et blanc. Il n'y avait pas la télé à l'époque, donc vous imaginez. Et en fait, quand vers la fin des années 40, 50, j'ai pu voir des films en couleur, eh bien, je n'en ai pas vu beaucoup d'ailleurs, eh bien, je n'étais pas convaincue, cela me paraissait exagéré, criard, peu naturel, je n'y croyais pas vraiment. La réalité, c'était le noir et blanc, ce qui n'empêche pas que dans mes cahiers d'écolier, je dessinais en couleur, comme tous les enfants. Mais aujourd'hui, quand j'écris, les images que je vois, qui me viennent à l'esprit, elles ne sont pas peut-être nécessairement en noir, blanc, très tranché, mais en niveau de gris. C'est une grisaille que je vois. Et je ne décris jamais dans mon écriture la couleur, parfois peut-être une petite notation, mais je ne décris jamais quelque chose en couleur. Mais je pense effectivement que c'est une question de génération et non pas de choix esthétique délibéré. C'est plutôt une sorte de pente naturelle. Nous travaillons en noir et blanc, nous continuons de travailler en noir et blanc, même si nous sommes ouverts à toutes les possibilités. Et je dois ajouter que aujourd'hui, quand des films d'aujourd'hui sortent par choix esthétique en noir et blanc, comme Manhattan de Woody Allen ou les films de Jarmusch, eh bien, ça me plaît bien, ça me parle, le noir et blanc.
Daniel Mordzinski, vous ne travaillez pas exclusivement en noir et blanc, mais vous avez manifestement une prédilection particulière pour le noir et blanc.
Je vais répondre avec un poème de Juarros, un poète que j'aime beaucoup, qui dit que la lumière, toute la lumière ne suffit pas pour voir une image quand personne la regarde. Je m'en fiche, noir et blanc, couleur, c'est un outil, c'est des outils. Je ne veux pas dire que c'est plus dramatique, que c'est plus... Mm-hmm. Non, c'est la droite, c'est la gauche, c'est en fonction de ce que je veux faire.
D'accord. Juste un dernier mot sur... Vous avez évoqué par allusion les uns et les autres vos projets, votre projet concernant Carlos Gardel, dont on va peut-être savoir enfin quelle était la nationalité. Dont on va peut-être savoir enfin quelle était la nationalité de Carlos Gardel. Et
on a notre théorie.
Oui. Alors,
aussi.
On peut le savoir.
La quatrième, c'est la juste. Non, quand même, je crois qu'il est né en France. Et ça, c'est tout pour moi.
Ouais.
Alors, on commence avec cette hypothèse, parce que c'est l'hypothèse plus solide. Alors, mais dans le trafic de mythes, en respectant la personne, on ne restera pas 600 jours dans cette... Où il commençait. On travaille avec lui, avec la dimension des rêves que lui et son moment a commencé à construire de cette Argentine qu'on dédessine. Et cette Argentine à nous, lui en part, comme on dit, de construction populaire géant. L'enfance et l'adolescence de nous dans le milieu de tango, dans les profondeurs de notre quartier. Carlos, on ne l'a pas connu, mais il était là, dans les moments dans lesquels mes oncles, mes familles chantaient dans les patios et tout ça. On est, comme dit, très tango, mon vie à Buenos Aires. Et cette Argentine qu'on dédessine toujours, j'espère qu'on trouvera un dessin pour la redessiner, pour retourner au moins à être digne du rêve que nous avons rêvé avec notre pays.
Daniel Mordzinski, on est...
Comme ils travaillent en commun.
Comme ils travaillent en commun, je pense que les projets sont communs. Mais
alors, je viens de finir un projet que j'espère publier l'année prochaine, qui s'appelle Chambre d'écriture. C'est un joli titre, j'espère que l'image sera à l'auteur. Et c'est justement le résultat des 20 ans de voyage avec des écrivains partout dans le monde. Quel écrivain, quel auteur n'a pas écrit un mot, une page, un chapitre dans un hôtel? Qui n'a pas souffert dans un hôtel? Qui n'a pas aimé dans un hôtel? Qui n'a pas dit demain, je change tout dans un hôtel? Et à partir de cette idée des chambres d'hôtel, comme une petite. Un hôtel, c'est comme la vie, c'est un lieu de passage. Et donc, à partir de cette idée, de la chance que j'ai eue de parcourir le monde avec eux, je vais publier ces livres. Je n'ai pas osé demander à chacun des auteurs photographiés un texte sur les hôtels. Mais j'ai osé demander à Saramago, à José Saramago, un texte qui m'a donné, qui m'a écrit. Oui. Et donc, voilà, c'est chambre d'écriture.
Bon, c'est pour...
Chambre de...
Écriture. Chambre Quarto d'écriture.
Quarto d'écriture. Avec la métaphore de l'hôtel, je dois dire une chose qui... En école de regard et de pensée, a tenté d'expliquer les difficultés de l'Argentine avec le syndrome de l'hôtel perpétuel, un lieu de passage dans lequel aucun se sentait lié, ou s'il y a des bruits, des situations terribles dans les patios, quand même, on est né là, mais c'est une casualité, on ne restera pas toujours là. Que c'est comme une sensation de la première vague d'immigration qui s'est répétée de façon malade dans les fils et les filles qui sont nés là-bas. Et alors, un des explications, comme on dit, compliquées, c'est la syndrome de l'auteur perpétuel dans lequel on ne se sentait pas touché pour les difficultés de l'hôtel. Quelque chose... Bon, je l'ai dit parce qu'il m'a fait... C'est un... de ce spectre dans lequel on cherche de trouver aussi une explication pour notre fragmentation, quand même.
Mais c'est très... L'image de la pension de famille revient très souvent, d'ailleurs, dans la littérature argentine, y compris dans les romans de Carlos Sampaio. Mais c'est un sujet qu'on gardera pour demain quand on parlera du roman policier. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. On retrouvera Carlos Sampaio donc demain à propos du roman policier. Merci Carlos Sampaio, merci José Muñoz, merci Daniel Mordinski.
Merci à toi.
Et merci à vous. Bravo. Alors, dans quelques minutes, à 18h, en fait, vous allez pouvoir voir la projection de Boulevard du Crépuscule, le film d'Edgardo Kozarinski. Ensuite, à 20h30, il y aura encore une dernière table ronde pour la journée, l'exil et la période de la dictature.